Imaginez une intelligence qui n'oublie absolument aucune de nos erreurs passées.
Ouais, ça fait un peu froid dans le dos.
Grave. Un esprit implacable et qui, ben, pour formuler une simple pensée, aurait besoin de l'énergie d'un petit réacteur nucléaire, quoi.
Et de millions de litres d'eau en plus.
C'est ça. Bienvenue dans notre exploration approfondie du jour. Aujourd'hui, on plonge dans un ouvrage vraiment percutant qui vient tout juste de sortir en cette année 2026.
Oui, le jour d'après, l'intelligence après le cerveau humain, d'Adnan Benchakroun.
Exactement. Et le but de notre immersion aujourd'hui, c'est pas de faire un énième débat super technique sur l'IA ou un catalogue d'algorithmes.
Non, la mission est beaucoup plus vaste.
Voilà. On veut vraiment comprendre l'essence même de l'intelligence, depuis la soupe chimique de nos neurones jusqu'aux immenses data centers industriels.
Jusqu'aux qubits quantiques même.
Carrément. Et pour ceux qui nous écoutent, on va voir pourquoi la vieille métaphore qui compare le cerveau à un ordinateur, en fait, elle est fausse.
Et même dangereuse pour notre avenir.
Ouais. On va voir que la vraie bataille géopolitique de demain, ce sera celle de la souveraineté cognitive. Bon, décortiquons un peu tout ça, parce qu'il y a un mythe tenace que ce livre détruit direct.
Ah, le fameux mythe du cloud.
Voilà. L'idée que l'IA flotte dans un nuage magique, super léger et immatériel.
Ce qui est fascinant ici, c'est que... notre technologie actuelle nous a vraiment conditionnés à ignorer la physique.
Totalement.
On nous vend cette image du cloud. Tu lances une requête sur un smartphone et paf, la réponse arrive instantanément. Comme si ça venait d'une dimension purement intellectuelle.
Comme par magie, quoi.
Exactement. Sauf que derrière cette illusion, se cache une machinerie industrielle qui est ultra lourde. L'auteur affirme d'emblée que derrière chaque avancée technique, on retrouve la question humaine la plus ancienne. Qui sommes-nous réellement ?
Ouais. Et il rappelle que penser, ça consomme de l'énergie.
Absolument. Que ce soit dans notre crâne ou dans un serveur, produire du sens, ça demande une dépense thermique et matérielle colossale.
Et c'est là que la comparaison classique entre le cerveau humain et un ordinateur s'effondre complètement.
Oui, parce qu'on a tellement utilisé cette image, le disque dur, la mémoire vive, le calcul binaire.
Sauf que le cerveau, il calcule pas froidement, il interprète, et surtout, il a un corps.
C'est ça, il dépend de la faim, du sommeil, de la pression sanguine.
Oh, le trac diligence, c'est un écosystème entier. Et dans cet écosystème, il y a des acteurs de l'ombre, dont on parle jamais.
Les cellules gliales.
Voilà, exactement. Les cellules gliales. Et ça, ça me fait penser à une analogie. Quand on regarde une ville, on admire toujours les gratte-ciels.
Ce qui brille, en gros.
Ouais, on regarde les neurones, les algorithmes de pointe, mais on oublie totalement les égouts, l'électricité, les fondations souterraines.
Et dans le cerveau, ces fondations invisibles, ce sont ces fameuses cellules gliales.
Exactement. Elles nourrissent, elles nettoient et elles protègent les neurones.
Et si on ramène ça à l'IA, c'est pareil. Le cloud, il n'existe pas. L'IA, elle habite dans des usines climatisées.
C'est carrément physique. Des câbles sous-marins, des minerais rares.
Et de l'eau. Des millions de litres d'eau et d'électricité pour refroidir ces serveurs qui sont en fait les nouveaux cerveaux industriels.
C'est fou, parce que l'avenir de la puissance d'une nation, ça dépendra pas du meilleur code informatique ?
Non, ça dépendra de celui qui peut alimenter et refroidir ces infrastructures monstrueuses. C'est une véritable orchestration énergétique.
Et ça nous amène à une transition logique, je trouve. Parce que si l'intelligence demande autant d'énergie et de matière, comment elle fait pour gérer le poids écrasant de toutes ces informations ?
C'est tout le paradoxe de la mémoire.
Voilà. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que Benchakroun explique que notre mémoire biologique, c'est pas un disque dur.
Pas du tout. C'est plutôt un atelier qui reconstruit le passé pour pouvoir anticiper l'avenir.
Oui. Et son outil principal, et ça c'est super contre-intuitif, c'est l'oubli.
L'oubli est vital. C'est pas un défaut de conception.
Exactement. Si on n'oubliait pas, on serait écrasé par le réel, on pourrait même pas généraliser un concept, quoi.
C'est ça. Alors que les modèles d'IA, eux, ils conservent tout. Ils génèrent, ils combinent des milliards de paramètres.
Sans jamais rien ressentir.
Exactement. Une IA peut te décrire la sensation de soif avec une précision poétique incroyable.
Mais elle a jamais eu soif de sa vie.
Voilà. Elle n'a pas de corps, donc pas de désir ni de manque.
Et ça, ça pose un danger social énorme. Parce qu'une société ou une mémoire numérique qui n'oublie jamais, ça devient cruel.
Ça enferme les individus dans leurs erreurs passées pour toujours.
Ce qui me fait me poser une question, si l'IA n'oublie jamais, est-ce qu'elle est seulement capable de pardonner ?
Si l'on relie cela à la vue d'ensemble, c'est une vraie question philosophique et technique. Pardonner, c'est introduire de la liberté dans la continuité des faits.
Rompre la chaîne logique, en fait.
C'est ça. Et l'enjeu avec les futures intelligences artificielles générales, les fameuses AGI, ce sera de leur apprendre à trier.
à hiérarchiser les infos.
Oui, et peut-être même à concevoir une forme d'oubli artificiel, juste pour éviter l'engorgement du système et cette fameuse oppression dont on parlait.
Ah ouais, un oubli programmé pour pas crouler sous les données. Mais du coup, pour gérer cette masse infinie d'informations sans s'effondrer énergétiquement, l'industrie cherche des solutions ailleurs, non ?
Oui, il se tourne vers un nouveau fantasme physique, l'informatique quantique.
Le fameux ordinateur quantique. Et là, il faut qu'on clarifie parce que c'est souvent vendu comme de la magie.
Complètement. On oppose souvent le transistor classique, qui est juste des 0 ou des 1.
Du binaire classique.
Voilà. Au qubit quantique. Lui, il peut être dans un état de superposition.
Genre les deux en même temps.
C'est ça. Et avec l'intrication, ça démultiplie la puissance. Mais le livre démystifie ce truc direct. Le quantique, c'est pas une baguette magique qui va créer une conscience artificielle spontanément.
C'est ciblé pour des problèmes très précis, c'est ça là.
Oui, comme la chimie complexe, l'optimisation ou la cryptographie. Et surtout, il y a le problème de la décohérence.
La décohérence, c'est quoi exactement ?
En gros, les qubits sont extrêmement fragiles. La moindre perturbation, la moindre chaleur et l'information est détruite.
Ah, ils perdent leur état quantique ?
Exactement. C'est pour ça qu'ils nécessitent des environnements refroidis presque au zéro absolu.
C'est un truc de fou. Et ça me fait vraiment penser à un parallèle inattendu. La fragilité de ces ordinateurs quantiques, qu'on doit protéger du moindre bruit thermique,
oui.
Ben, ça ressemble vachement à la fragilité du cerveau d'un enfant humain.
Ah, c'est une excellente comparaison.
Tu vois, un bébé, il a besoin d'un environnement hyper sécurisé, de temps, de soins constants, pour développer son potentiel. Sinon, il ne peut pas se structurer.
Et cela soulève une question importante. Ça montre que la véritable intelligence ne naît jamais du chaos brut.
Jamais.
Elle a besoin d'un environnement favorable, d'un berceau. Et c'est pour ça que l'auteur pense que l'AGI de demain sera très probablement hybride.
Hybride, c'est-à-dire ?
Elle va orchestrer à la fois des calculs classiques, très robustes, et des calculs quantiques, beaucoup plus fragiles, mais surpuissants.
Un peu comme notre cerveau, au final ?
Tout à fait. On combine tous les jours des processus conscients complexes avec des automatismes inconscients pour survivre.
Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Parce que si l'infrastructure pour faire tourner cette fameuse AGI demande des data centers énormes, de l'eau, du quantique refroidi au zéro absolu...
Ça coûte une fortune.
Grave. La question c'est qui va détenir les clés de tout ça ? Qui va imposer sa vision du monde ?
Et là, on touche à la souveraineté cognitive.
C'est le cœur du problème géopolitique. Le livre insiste lourdement là-dessus.
Oui, l'IA n'est jamais neutre. Elle transporte avec elle les langues, les biais et les intérêts économiques de ses créateurs.
Et c'est un enjeu crucial pour des pays comme le Maroc, pour l'Afrique et globalement pour les pays du Sud.
Absolument. Le grand danger, c'est d'importer toute son éducation, sa justice ou son administration sous forme d'algorithmes clés en main.
Sans maîtriser ni les données, ni les infrastructures physiques.
Exactement. On ne peut pas se contenter d'être de simples consommateurs fascinés par la technologie.
Sinon, on délègue littéralement notre façon de penser. Et le livre fait un parallèle super intéressant avec la mythologie, genre Prométhée ou Frankenstein.
Oui, ou le mythe du golem. L'humanité veut toujours la gloire d'avoir créé quelque chose d'incroyable.
Mais on veut pas assumer la responsabilité morale de la créature, quoi.
C'est exactement ça. Et sur la question de la foi et de la science, c'est très frappant.
Ouais, vas-y. Bah, une IA générative peut tout à fait simuler une prière ou commenter un texte sacré avec une rhétorique parfaite.
Mais elle ne ressent rien.
Rien du tout. Ni la crainte, ni l'espérance. Penser à la place de l'homme, c'est fondamentalement différent d'accompagner l'homme. La menace immédiate, en fait, c'est pas Terminator.
Non, c'est beaucoup plus subtil.
C'est cette délégation insidieuse. On finit par aller voir la machine, et au lieu de lui demander « que puis-je faire ?», on commence à lui demander « que dois-je faire ?».
On abdique notre libre arbitre. Et c'est pour ça qu'une gouvernance à la fois mondiale et locale est vitale.
Pour ne pas se faire écraser.
L'AGI, ce sera un miroir actif de l'humanité. Si on l'entraîne avec un monde injuste, bah elle optimisera cette injustice.
Avec une efficacité redoutable en plus.
C'est un enjeu civilisationnel. Créer un successeur, c'est avant tout choisir l'héritage qu'on décide de lui transmettre.
C'est super fort comme réflexion. Pour récapituler un peu notre voyage d'aujourd'hui pour notre auditoire.
On est parti de loin quand même.
Ouais, on a commencé avec l'importance de la matière, le rôle essentiel de nos cellules gliales et les besoins physiques gigantesques des data centers.
Pour bien montrer que l'intelligence, c'est pas juste du code dans les nuages.
C'est ça. Et on a fini par les enjeux géopolitiques énormes de la souveraineté cognitive face à l'arrivée de l'AGI.
Avec ce rappel impératif, l'humanité doit absolument rester le décideur de son propre avenir.
Absolument. Et ça m'amène à une dernière pensée. Un truc assez provocateur que je voudrais laisser en suspens pour nourrir l'esprit de celles et ceux qui nous écoutent.
Je t'écoute.
On se demande toujours avec angoisse si la machine va finir par développer une vraie conscience humaine, avec ses doutes, sa morale, sa vulnérabilité.
C'est le vieux fantasme de la science-fiction, oui.
Mais la question la plus effrayante, c'est peut-être l'inverse. À force de passer nos journées à interagir avec des systèmes parfaits, prévisibles, qui ne nous contredisent que par des probabilités mathématiques...
Tu veux dire qu'on s'adapte à eux ?
Exactement. Ne sommes-nous pas en train de remodeler le cerveau humain pour qu'il perde sa propre complexité émotionnelle ?
Ah oui, c'est vertigineux.
Au final, le danger, c'est peut-être qu'on se mette, nous, à penser comme des machines.
Voilà une pensée qui donne à réfléchir.
Sur ce, on vous laisse méditer là-dessus et on vous dit à très bientôt pour une nouvelle analyse.